Bonjour, bienvenue sur Cunéo, le podcast qui donne la parole aux architectes. Je m'appelle Chérine Gasnier, la créatrice de ce podcast. Je suis architecte, diplômée de l'école d'architecture de Grenoble, enseignante depuis 2010. Je suis aussi maman de 3 enfants. Ici, je vous propose des entretiens sur le ton de la conversation avec des architectes pour aborder les questions de pratique de l'architecture. L'idée est de vous faire rentrer dans les agences et de poser des questions. De vous ouvrir un monde de possibles, de vous inspirer. Peut-être entendrez-vous des choses vous permettant de vous identifier. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Dites-moi ce qui vous plaît, ce qui peut être amélioré. Et surtout, dites-moi qui vous aimeriez entendre à ce micro. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Dans ce 3e épisode, vous entendrez Hugo Gasnier. Chérine Gasnier, Hugo Gasnier... Vous avez compris, pendant les vacances, je digresse un peu et profite d'une pause pour mener l'exercice surprenamment difficile de conduire un entretien avec mon conjoint. Vous entendrez donc Hugo. Il vous parle de son parcours particulièrement riche et multiple entre recherche et pratique en agence. Et plus encore. Vous verrez, avec Hugo, il n'y a pas beaucoup de limites. La conversation est plus intime cette fois-ci et pourtant il reste très pudique. J'espère que cet entretien vous plaira. Hugo a intégré l'agence Gasnier & Co. il y a un peu plus de 3 ans. Décidément, ça fait beaucoup de Gasnier pour un seul épisode. Gasnier & Co, c'est une agence qui fait un peu figure de pionnière dans le bassin grenoblois. Lorsqu'il y a une 20aine d'années, un peu plus, Gérard se lance dans la construction écologique. Si cela vous intéresse, ça pourra faire l'objet d'un prochain épisode. En attendant, je vous laisse avec Hugo. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Hugo, merci de prendre du temps sur tes vacances pour répondre à nos questions. Je suis bien contente de faire cet entretien, j'espère que je vais apprendre des choses encore. Donc Hugo, est-ce que tu peux te présenter rapidement ton nom, ton âge et où est-ce que tu as fait des études ?
Ouais, bonjour déjà. Donc, je suis Hugo Gasnier, j'ai 35 ans. Donc, je suis architecte HMONP depuis 2 ans déjà. Je suis aussi docteur en architecture. J'ai aussi un DSA architecture de terre. Et donc, je suis à la fois architecte praticien dans l'agence Gasnier & Co. Et puis, je suis aussi chercheur.
Ok, vaste programme. Est-ce que tu peux nous dire, en fait, nous replonger dans tes études, nous dire comment c'était, comment tu t'es sentie ? C'était facile ? Est-ce que c'était difficile ?
Peut-être déjà, oui, les études d'architecture, rapidement. J'étais pas spécialement brillant, même si j'avais pas de difficultés pour avancer dans les études. J'ai pas eu des études dans lesquelles je me suis vraiment senti m'affirmer ou me démarquer au tout début, on va dire, jusqu'au master en fait. J'ai eu de la chance par contre de croiser des parcours d'enseignants qui étaient vraiment déjà orientés sur la question de l'architecture éco-responsable qui me passionnait en fait, qui m'intéressait déjà. Donc c'est là où j'ai rencontré des enseignants comme Pascal Rollet, Nicolas Dubu, Anne-Monique Bardago, Patrice Doat, qui étaient tous engagés vraiment dans une démarche de nous apprendre en fait une architecture qui était respectueuse de l'environnement. Et puis du coup, d'avoir un apprentissage vraiment qui était basé sur l'expérimentation. Et ça a été quelque chose de vraiment très fort dans mon parcours d'étudiant qui m'a vraiment formé, quoi. Et à la suite de ça, on a décidé, du coup, avec plusieurs collègues, de poursuivre nos études au-delà, avec le DSA Architecture de Terre, où là, on avait un apprentissage qui était vraiment basé sur l'architecture de terre, pas que sur le matériau, mais vraiment sur la question de l'architecture. Et ça a été vraiment une découverte vraiment passionnante, de pouvoir travailler à la fois à partir d'un matériau, mais en allant vraiment jusqu'à une architecture qui s'inscrit dans un territoire, et d'avoir cette démarche vraiment globale, quoi, vraiment du matériau, de la ressource jusqu'au territoire, ça a été vraiment quelque chose de passionnant. Voilà, donc après, à la suite de ça, ben, j'ai voulu poursuivre dans la recherche. Et c'est pour ça que j'ai mis vraiment longtemps avant de quitter les bancs de l'école. Et du coup, j'ai été étudiant pendant très longtemps, quoi. Je le suis toujours un petit peu, finalement. Voilà.
Peut-être rapidement, entre ton DSA et ton début de professionnel en architecture, tu as quand même été lauréat d'une bourse. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement?
Oui, c'est à la fin du DSA. J'ai été lauréat de la bourse de Lano-Aldrich, qui est une bourse qui permet d'aller étudier pendant, à l'époque c'était 4 mois, 3 ou 4 mois, aux États-Unis. Mais c'est une bourse de voyage d'études en fait, où l'idée c'est un étudiant propose un sujet, donc c'est l'Académie d'architecture qui gère ça en France, et après il part aux États-Unis pendant un certain temps pour aller approfondir le sujet qui a été proposé. Et moi j'avais proposé du coup d'aller explorer les architectures contemporaines dans l'Ouest américain et de comprendre en fait pourquoi ces architectures de terre en fait se sont autant développées dans ce contexte spécifique à la fois de l'Ouest américain, et pourquoi en fait ça en faisait une architecture contemporaine qui correspondait à la fois à un territoire, à la fois à des enjeux sociaux, et comprendre vraiment la dynamique d'acteurs avec à la fois les artisans, les architectes et tout ça. Et donc ça m'a permis d'aller à la rencontre de ces gens-là et de faire vraiment de l'analyse sur site, à la rencontre des personnes avec des interviews, et de vraiment comprendre en fait quelles étaient les dynamiques et les leviers quoi de tout ça.
C'est en fait tes premiers pas dans la recherche finalement d'une certaine manière.
C'est les premiers pas. Non, les premiers pas, c'était plus en DSA déjà, où en fait on a avec Quentin Chansavant qui travaille chez Balastoc aujourd'hui et qui est aussi enseignant à l'école d'architecture de Grenoble. Les premiers pas où on avait posé en fait déjà des questions de recherche sur en fait quelles étaient les possibilités d'emploi du matériau terre en architecture contemporaine, pour pouvoir en fait utiliser ce matériau de manière à répondre aux enjeux environnementaux actuels, quoi. En fait, un matériau qui est bas carbone, qui a une forte capacité d'implication sociale aussi des occupants. Il y a plein de thématiques de recherche derrière ce matériau, et ce qu'on en fait aujourd'hui en architecture qui était intéressant. Donc ça, c'était vraiment les premières questions de recherche.
D'accord. Je voulais te poser une question que je ne pose pas d'habitude. Est-ce que l'architecture, c'était une évidence pour toi? Est-ce que faire architecte, ça tombait sous le sens ou...
Non, pas forcément. Au début, en fait, avant de rentrer en école d'architecture, moi, j'étais plus attiré par le travail sur la matière. C'est pour ça que je le retrouve à la fin de mon parcours aussi, enfin, au début de mon parcours professionnel, donc à la fin de mes études. En faisant le DSA architecture de terre, je retourne dans la matière, en fait. Mais au début, moi, j'avais opté pour m'inscrire à la fois aux Beaux-Arts, à l'école aux Beaux-Arts de Grenoble et à l'école d'architecture de Grenoble, et j'ai été reçu dans les deux, et on va dire que finalement à l'école d'architecture j'avais trouvé un plus grand, plus large, on va dire débouché ou champ d'application de ce travail sur la matière, et puis ça a impliqué aussi des dimensions effectivement sociales auxquelles j'étais toujours intéressé, de pouvoir faire pour les gens, avec les gens, toutes ces questions qui sont aujourd'hui primordiales en architecture, quoi. Voilà. Donc non, en fait, le travail sur la matière était déjà présent, mais pas forcément l'architecture. Donc les beaux-arts, c'était pour la question de la sculpture que ça m'intéressait, voilà.
D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on t'a dit pendant des études qui t'a marqué et qui est un peu revenu régulièrement?
Je sais pas si c'est quelque chose qu'on m'a dit, c'est plus une forme de pédagogie en fait. C'est Patrice Dohet qui nous disait en rigolant: Vous êtes tous nuls. Et donc ça, c'était une manière de nous dire, de toute manière, qu'est-ce que vous avez à perdre? Faut se lancer, il faut y aller. Et vous êtes tous nuls, on n'est pas là pour se comparer, pour voir qui c'est qui est le plus fort, qui va faire la. Faut se lancer, faut y aller, faut s'amuser avant tout. Et c'est ce que Patrice, il nous disait toujours, quoi. Dans son enseignement en première année, qui était vraiment basé sur des exercices très courts, intensifs, de basic design. On fait des petits exercices très rapprochés, très courts, où on se lance en fait. Il faut mettre un pied, il faut oser quoi. En architecture, c'est ça quoi. Faut pas se poser des questions pendant 1000 ans. Ça vaut le coup de réfléchir à un détail pendant 10 ans, mais on peut aussi en essayer 10, puis après on verra quoi. Voilà. Faut se lancer quoi. Et c'est vrai que le fait de se lancer, c'est quelque chose qui est important en architecture. Et c'est quelque chose ouais, qui m'a marqué et qui fait que ben, du coup, on a. Ouais, je pense que ça m'a guidé un peu au final, toujours de me lancer dans la terre, me lancer dans ça, même si on a toujours peur de se lancer, mais bon, enfin, une fois qu'on a sauté, on a sauté, quoi.
C'est vrai qu'il disait ça. Bon, du coup, en 2014, quelque part, dans toute cette, ce cursus, tu deviens papa. Et aujourd'hui, tu es papa de 3 enfants. Est-ce que devenir papa, ça change quelque chose, dans ton positionnement, la pratique de ton métier? Et si oui, qu'est-ce que ça change?
Devenir papa, ça change des choses. C'est sûr que j'ai plus la même capacité de me déplacer pour des missions que j'ai fait comme j'ai fait à l'étranger, comme au Bénin, au Sénégal ou en Chine. Mais c'est pas non plus une contrainte. C'est quelque chose qui apporte personnellement beaucoup plus de choses aussi que l'architecture, qui permet de relativiser aussi vis-à-vis du travail aussi et de prendre du recul. On va dire que voilà, il y a. Mais c'est. Je pense que chacun l'aborde de manière très différente, ça aussi. C'est pas évident à répondre, quoi.
Pour moi, devenir maman, ça change ma perception de l'espace, presque, ou ma
Non, pas
manière
vraiment.
de penser l'espace ou de dessiner l'espace. Ça n'a pas d'impact pour toi.
Non.
Ok. Est-ce que ça change quelque chose sur tes ambitions au travail? Non plus. Ça change quelque chose sur ce que tu t'accordes de faire, en fait.
Je sais pas si j'ai envie de le dire comme ça.
La première mission que tu as refusée, je ne sais pas si tu t'en souviens, j'étais,
Oui,
donc du coup
mais c'était chaud, quoi.
c'était moi, j'étais sur le point d'accoucher et tu devais partir. C'était où? En Afghanistan?
C'était en Afghanistan, ouais. Ouais, une mission qui s'est, entre guillemets, bien déroulée en plus, hein. Non, c'est des collègues qui sont partis du coup. Non, mais c'est vrai qu'effectivement, quand t'es papa, tu peux pas accepter tout comme tout le monde. C'est pareil, tu peux pas être sur le même rythme de travail que les. Je vais faire vieux con, les petits jeunes qui. qui eux peuvent se mettre des charrettes à tire-larigot et tout. Toi, tu peux te mettre des charrettes un peu de temps en temps, mais faut y aller mollo, quoi. Parce que après, il faut quand même assumer les autres morceaux de journée qu'il faut faire pour pouvoir préserver aussi ta compagne qui s'occupe aussi un peu des enfants. Voilà, il faut aussi trouver un équilibre entre tout ça. Et c'est clair que, enfin, moi j'étais papa et j'ai été papa en plus pour la deuxième fois au moment de la thèse. Et j'ai vraiment senti la différence dans la manière dont j'ai géré les choses par rapport à des gens qui n'étaient pas parents. Parce que du coup, ben, quand tu prends une charge de travail, quand tu la prends, il faut pouvoir évaluer si du coup tu vas avoir le temps de la faire, combien de temps tu vas devoir la faire et. Savoir que du coup tu vas pas prendre de retard pour pouvoir la rendre parce que sinon bah tu te mets en retard pour tout et que c'est pas possible. De toute façon tu peux pas faire ça parce que bah, de toute façon tu as les gamins qui sont là, qu'une fois que c'est l'heure quoi, hein, c'est tout. Il n'y a pas le choix. Donc c'est pour ça que la thèse, ben, je l'ai finie en 3 ans, pile poil, parce que je voulais pas finir en étant sans financement à la fin de la thèse. Et voilà, donc il
Tu pouvais
fallait.
pas finir,
Non, je
c'était.
pouvais pas. Oui. C'est des obligations qui font que, ben, du coup, oui, t'as plus. t'as des responsabilités, quoi. Voilà, c'est tout. En plus.
Mais du coup, c'est intéressant parce que finalement, avec toute cette contrainte, entre guillemets, de...
Bah, c'est pas une contrainte, les enfants, hein. Faut en être clair, quoi. Non, mais... Avoir des enfants, c'est quelque chose qui est vraiment enrichissant, au contraire, dans la pratique d'architecte. Ça, il faut être très clair là-dessus. On voit les choses différemment. On est dans un passage de relais déjà avec ses enfants. Voilà, donc il y a des choses qui... Ce n'est pas des contraintes. C'est juste qu'on prend des responsabilités différemment quand on a des enfants.
D'accord.
Voilà.
Des contraintes de temps, je voulais dire.
Bon.
Si tu peux bien me laisser.
Et de nuit. Place. Excuse-moi.
Donc, effectivement, tu as des contraintes de temps en plus que les autres. Je me souviens que... Ouais, les autres qui pouvaient travailler les week-ends, les nuits, et finalement, ils avaient deux fois plus de temps que toi pour faire la thèse. Et pour autant, tu as fait ta thèse en 3 ans, aux heures du bureau, quoi.
Bah, pas que aux heures de bureau, j'ai quand même écrit la nuit et les week-ends, hein, mais du coup, c'est toi qui t'occupais des enfants, quoi. Voilà, donc ça
oui,
veut
mais
dire que
t'as
les...
pas...
et c'est, voilà, tu le reportes sur d'autres gens, quoi, après. Mais ouais. Voilà, il faut du soutien. Quand on fait un doctorat, de toute façon, il faut toujours du soutien.
Donc aujourd'hui, tu travailles en agence donc chez Gasny & Co. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots et nous parler des projets de cette agence et de ta place dans cette agence? Comment est-ce que tu te positionnes au sein de cette agence d'architecture?
Donc Gasny & Co, c'est une agence qui a été fondée par mon père, hein, Gérard Gasny, dans les années 90. Il était vraiment orienté sur la question de la performance énergétique et la construction avec des matériaux, le matériau bois principalement. Voilà. Moi, ce que j'y apporte depuis, c'est vraiment la dimension un peu plus large du matériau géosourcé aussi avec le matériau terre. Et puis ma vision vraiment de la question de la participation aussi dans les projets, le travail collaboratif avec les entreprises qui étaient déjà présents, mais quelque chose que j'essaie de renforcer aussi sur l'implication des entreprises dans le processus de conception aussi, qui est quelque chose qui est un levier fort si on veut faire un travail collaboratif et du coup qui répond aux enjeux concrets de la construction, quoi, éco-responsable. Architecture éco-responsable, voilà. Donc, ma place dans l'agence aujourd'hui, bah, je suis chef de projet, on va dire. Voilà, j'ai 4-5 chantiers en simultané, presque autant de projets en esquisse et en développement. Et on travaille donc sur des projets bio et, avec des matériaux bio et géosourcés, donc avec des matériaux naturels. Et donc on est dans une recherche effectivement de démarches locales avec des entreprises locales et puis du coup d'essayer de valoriser au maximum ces matériaux naturels aussi dans la construction, voilà. Mais ça, c'est des demandes qui viennent forcément des clients, en fait. Aussi, les clients sont assez importants dans la démarche parce qu'on est sur des projets privés et donc la demande des clients, enfin, ils viennent nous voir parce qu'on est spécialisé là-dessus et du coup leur demande, elle est vraiment motrice dans la dynamique qu'on peut mettre dans le projet. Il faut qu'eux, ils soient convaincus déjà. Ils viennent vraiment pour ça aussi, quoi. Voilà.
D'accord. Et du coup, le projet pour Gasny & Co, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Vous en savez un peu plus ou pas?
Le projet pour le futur, c'est... Bah, l'idée, c'est que... que je poursuive avec les thématiques qui me motivent, effectivement, toujours sur la question de ces matériaux, de faire de développer sur beaucoup plus là aussi la dimension participative, à la fois dans la relation avec les entreprises, comme j'en parlais. On est vraiment dans cette interaction architecte-artisan qui est un lien assez fort qu'il faut vraiment travailler. Et puis il y a aussi la dimension participative, on aimerait bien aussi se positionner plus fortement sur l'habitat participatif, où il y a un vrai potentiel à la fois d'autopromotion des habitants de logements collectifs, en fait. Où, en fait, l'idée de l'habitat participatif, C'est vraiment l'idée que des habitants se regroupent pour pouvoir mettre leur financement en commun, pour pouvoir financer du coup un habitat collectif groupé et partager certains usages. Ça peut être par exemple une buanderie, un appartement en plus. Ça peut être, et ça permet aussi de partager aussi, ben, par exemple, le coût du foncier aussi, notamment. Après, sur les coûts du logement, ça va faire baisser les coûts, mais par contre, il y a quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est toute la démarche où l'habitant est vraiment impliqué dans le processus de conception de son habitat et du coup de définition de son habitat. Et ça, c'est vraiment une dimension qui est importante parce que aujourd'hui, nous, on ne se verrait pas concevoir ou construire des choses pas pour les gens. On a besoin que les gens soient vraiment impliqués dans leur processus de conception et tout au long du chantier. C'est pour ça qu'on dit, quand on a des clients qui arrivent, que c'est une vraie implication de leur part aussi de faire un projet. C'est pas une voiture qu'on commande sur catalogue, c'est vraiment quelque chose où ils vont devoir passer du temps, venir aux réunions de chantier, avant ça, bah, s'impliquer fortement dans les phases de conception. Et donc il y a tout ce travail collaboratif qui est vraiment très très important, parce qu'on fait vraiment des projets pour les gens, quoi. On n'est pas là pour faire des projets sans avoir quelqu'un en face, quoi. Voilà.
Ok. Est-ce que tu peux nous dire ce que comment elle fonctionne cette agence, combien vous êtes, comment est-ce que ça se passe le travail chez Gasnier-Eco?
Bon, c'est une petite structure, hein. On est trois, donc il y a deux chefs de projet, on va dire, gérants, et un dessinateur projeteur qui permet du coup d'avoir une forme de. En fait, ça permet d'avoir une grosse implication sur les chantiers, en fait, cette structuration. Ça permet d'avoir quelqu'un qui est toujours au bureau et qui peut du coup. Formaliser toutes les pièces graphiques qu'on a besoin en fait, même si on passe beaucoup de temps à tracer, à dessiner à la main, à dessiner sur chantier, à ramener des carnets de croquis qu'on a fait à la main sur chantier ou avec les clients en réunion quoi. Mais du coup, ce travail de formalisation à l'agence nous permet de gagner du temps et d'être beaucoup plus présent sur le terrain et sur le chantier. Ça veut dire que durant toute la semaine, en fait, on a des tâches administratives qu'on fait plutôt très tôt le matin ou fin d'après-midi. Mais après, toute la journée, on va vraiment sur chantier, visiter l'avancement de chaque projet pour pouvoir discuter avec les artisans, voir sur place les détails, prendre le temps de régler tous les soucis nécessaires, quoi. Donc, ça demande aussi d'avoir du coup un peu des journées un peu plus élargies. Qui permettent d'avoir vraiment un temps chantier avec les entreprises et puis du temps autour pour l'administratif, quoi. Voilà.
D'accord. Est-ce que tu retrouves cette question de la matière que tu recherchais avec les beaux-arts? Enfin, ta question vraiment de la sculpture, est-ce que c'est cette implication de chantier qui te.
Ce qui m'intéressait dans la sculpture, c'était la transformation de la matière. Et je pense que c'est toujours cette préoccupation qui m'intéresse en architecture. C'est comment, en fait, on part d'une ressource, on utilise ces ressources avec des savoir-faire d'artisans, en fait, des vraies connaissances de métier qui façonnent la matière, en fait. Que ce soit un charpentier, que ce soit un maçon, que ce soit un ébéniste, que ce soit n'importe quelle entreprise finalement a son savoir-faire derrière pour façonner cette matière, que ce soit un maître plâtrier, quoi, voilà. Ils ont chacun des connaissances et en fait ces connaissances de transformation de la matière, ben, nous on est là pour les accompagner, pour essayer de jouer avec, d'en tirer les meilleures parties pour en obtenir des qualités spatiales derrière qui sont pertinentes. Et vraiment, ça, c'est quelque chose qui me fascine toujours autant, je pense, et avec lesquels ben, je m'amuse vraiment sur chantier aussi, donc c'est vraiment intéressant, voilà. Ouais. Donc je m'y retrouve effectivement sur ces aspects-là. C'est des choses que j'aimerais encore pouvoir beaucoup plus développer en partant encore plus loin dans la ressource, en allant vraiment Pourquoi pas aller sélectionner les légumes à cueillir dans les forêts ou aller sélectionner la terre, ce que j'ai déjà fait pendant plusieurs années quand je travaillais en tant que chercheur. Là, j'allais dans les carrières chercher les agrégats pour pouvoir fabriquer du pisé. Donc, c'était vraiment aller cueillir la ressource à la source pour pouvoir sortir son propre matériau derrière, quoi, ouais, et sa propre architecture.
Pendant que tu étais chercheur, tu as fait de la recherche matière, comme tu viens de dire. Tu as aussi fait de l'assistance à la maîtrise d'œuvre. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ça et ton rôle en tant qu'architecte là-dedans?
Ça, c'est quelque chose que. Ouais, ça, c'est peut-être s'il y a un message à faire passer, c'est peut-être quelque chose qui est important, ça. En fait, il y a plein de manières de pratiquer l'architecture qui sont différentes et qui sont tout aussi riches. Pendant plus de 10 ans, j'ai fait de l'assistance à maîtrise d'œuvre et ça a été une expérience vraiment formidable parce que ça m'a permis de. Alors, pourquoi j'ai fait ça déjà? À la sortie du DSA architecture de terre, en fait, en faisant cette formation, on s'est spécialisé sur un matériau. Et un architecte, il peut se spécialiser dans plein de domaines qu'il passionne, en fait. Et ça, c'est vraiment intéressant. Les études d'architecte sont assez larges pour pouvoir ouvrir sur toutes ces plein de spécialités qu'on peut ajouter en plus à sa formation. Et l'architecture de terre, donc c'était ma spécialité à la fin du DSA architecture de terre. M'a permis du coup de faire de l'assistance à maîtrise d'œuvre. Donc qu'est-ce que c'était? C'était pendant 10 ans en fait on recevait des demandes d'architectes qui avaient l'envie d'utiliser ce matériau terre, mais il y avait très peu de connaissances ou d'enseignements qui ont été faits de ce matériau-là dans les écoles d'architecture. Donc un déficit général finalement sur comment utiliser ce matériau en architecture. Avec le DSA architecture de terre, on était spécialiste du matériau. Et donc, nous, notre rôle, c'était. Donc, je dis nous parce que je n'étais pas le seul à faire ce type de mission, mais c'était d'intervenir dans les agences d'architecture pour à la fois leur dire ben voilà, en fait, on va aller choisir la matière à tel endroit, on va faire appel à des entreprises. Voilà, il y a plein d'entreprises qui connaissent ce matériau, donc aller faire appel à eux. On peut trouver des montages avec des entreprises plus conventionnelles parce qu'eux, ils ont l'outillage et les plus petites entreprises artisanales ont le savoir-faire. Du coup, en les associant, on arrive à avoir une entreprise d'une taille suffisante pour répondre à l'échelle de votre chantier. Et après, on venait et on avait plein de conseils aussi sur voilà, le détail technique, comment on le dessine pour que ça corresponde aux matériaux. Parce que ça, on ne nous l'a jamais enseigné à l'école d'architecture. Même dans le cursus général de l'école d'architecture de Grenoble, on n'a jamais eu un cours de détail sur l'architecture de terre, quoi. Encore moins sur quels étaient les différents processus pour pouvoir mettre en œuvre un matériau terre dans un projet, quoi. Et en tant qu'architecte, si on dessine un projet avec une texture terre, ça ne veut pas dire qu'on a anticipé toutes les conséquences de ça derrière. Et donc, nous, notre rôle en tant qu'assistant en maîtrise d'œuvre, c'était d'accompagner les architectes pour leur faire prendre conscience de là où il y avait des enjeux, là où ils devaient porter attention à telle étape pour pouvoir faire avancer leur projet. Et ça a été vraiment passionnant parce que du coup, ça permet de rentrer dans des agences d'architecture, de voir leur fonctionnement et puis du coup de venir en appui et d'apporter les éléments qui avaient besoin en plus, quoi. Donc ça a été vraiment très intéressant pendant 10 ans et j'ai beaucoup appris en faisant ça et puis c'est ce qui m'a donné aussi de retourner après à exercer en tant que maître d'œuvre aussi de mon côté pour pouvoir faire mes propres projets aussi, quoi. Voilà.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre prendre le pinceau terre dans, je sais pas, SketchUp ou le pot de peinture terre dans SketchUp ou dans un logiciel de 3D et vraiment penser une architecture qui tient en terre.
Ben oui, c'est tout ça, c'est le passage du dessin à la construction, c'est le dessin chantier en fait, c'est Sergio Ferro là, qui a théorisé un peu ça en fait, c'est comment on passe en fait du dessin qui est quelque chose qui est assez virtuel, mais il y a déjà toute une implication des conséquences constructives quand on dessine en fait, c'est pas parce qu'on met une couleur terre ou une texture terre dans un dessin que derrière on en a anticipé toutes les conséquences constructives. Il y a les conséquences constructives, les conséquences sociales aussi, parce que c'est pareil, aller faire travailler des artisans dans des conditions qui sont pas forcément terribles, dans des situations qui sont complexes, parce qu'on a dessiné un projet avec des choses qui sont compliquées, ben c'est pas souhaitable non plus, quoi. Donc derrière, il y a tout un tas de conséquences en fait dans le dessin, et il faut bien les anticiper. Et du coup, les architectes, ben, montent vraiment en compétence aussi sur ces connaissances-là. Enfin, moi, je l'ai vu en 10 ans, ça a vraiment évolué aussi, quoi, sur ces matériaux un peu plus qui étaient marginaux, on va dire, la terre, pourtant qui fait partie du premier matériau de la sédentarisation de l'humanité, quoi. Donc qui nous regroupe tous, quoi. Mais voilà, donc les architectes sont vraiment montés en conséquence sur la prise en compte de toutes ces contraintes, quoi, en fait, voilà, constructives.
Ok, c'est intéressant. Et il y a une question qui me brûle les lèvres quand je t'entends, c'est donc tu fais tes études à Grenoble, tu fais ton DSA, tu fais de l'assistance à maîtrise. Donc, pendant ton DSA, tu acquiers des compétences techniques sur la terre.
Oui.
Tu fais toute ta période de recherche, notamment avec de l'assistance à la maîtrise d'œuvre. Puis, tu arrives en tant que chef de chantier en agence. Mmh. Et tout de suite, tu fais du suivi de chantier, du travail de détail sur autre chose que de la terre. On est là sur de la construction plutôt, la construction bois, du béton. D'où te vient cette capacité comme ça à... Où as-tu appris, en fait, la construction, l'assemblage?
Bah, ça s'apprend. Ma capacité à m'adapter à ça, ça vient de... Je pense que la formation qu'on a reçue à l'école d'architecture de Grenoble, qui était dispensée par le AESCC, donc architecture, environnement et culture constructive, toute l'équipe à laquelle je me suis rattaché après pour ma recherche, en fait, cette capacité à s'adapter et à être actif à la fois sur la conception de l'architecture et puis sur l'anticipation de toutes les dimensions constructives, elle vient vraiment de cette formation-là, je pense. C'est la formation qui est rattachée, enfin qui est dispensée en partie aux grands ateliers avec beaucoup d'expérimentation, et le fait de travailler sur des prototypes, d'être tout de suite dans la réflexion de comment ça se monte, comment ça s'assemble, comment ça se travaille, et de pouvoir l'expérimenter, et donc l'apprentissage par le faire est vraiment quelque chose de vraiment important. Donc en fait, tout l'enseignement de studio qui était basé là-dessus, sur l'apprentissage par le faire, avec des prototypes aux grands ateliers, on avait des prototypes sur différents matériaux, hein, le bois, la pierre, l'acier, les matériaux composites et la terre, et ben ça a été vraiment quelque chose de très riche et un déclencheur, en fait. Et après, après j'ai continué à me former par moi-même sur tous les autres matériaux, quoi, voilà.
D'accord. Je voulais te poser la question de ce que tu préfères ou ce que tu aimes le moins dans ton travail d'architecte, mais je crois que ce que tu préfères, on l'a déjà abordé. Est-ce qu'il y a des aspects de ton métier que t'aimes moins, que tu...
Des choses que j'aime moins. Ce que j'aime moins, ce qui peut être... Il y a beaucoup de choses que j'aime bien. Les choses que j'aime moins, je pense que ça doit être de tout ce qui touche à gérer les conflits d'argent pour les clients, en fait, aussi, quoi, qu'il peut y avoir des choses comme ça qui sont des choses assez sérieuses, finalement, parce que les clients, ils viennent avec un budget, c'est des choses qu'ils ont économisées en général au cours de leur année, de leur vie, et que du coup, ils nous remettent entre leurs mains quand ils font un projet privé. Et du coup, c'est quelque chose où il faut être très sérieux et il faut être très, très rigoureux de gérer un budget, le piloter. Voilà. Et du coup, c'est, dès qu'il y a des travaux supplémentaires, des choses comme ça à gérer, c'est quelque chose qui est un peu dur, on va dire. Parce que d'un côté, il y a une entreprise qui a fait du travail en plus, peut-être. Et de l'autre côté, le client qui a un budget, je sais, oh, non, c'est pas ça la réponse à la question, je pense. Je pense que c'est pas ça. Alors, qu'est-ce que c'est les choses que j'aime au moins? Les choses que j'aime le moins dans mon métier, je sais pas. Les embrouilles. Je C'est le stress du métier.
Il te vient tout ce stress.
Je sais pas. Bah, aux embrouilles.
D'accord.
Ce que j'aime le plus ou ce que j'aime le moins, je sais pas. Ce que j'aime le plus, bah, c'est de voir les choses aboutir, de voir les choses avancer. Ce que j'aime le moins, c'est quand ça bloque quelque part pour une question X ou Y, soit des questions de budget, soit des questions de normes, soit des questions techniques qui sont là, et voir quelque chose qui avance pas, ça m'énerve. Voilà.
Ok, ça marche. Est-ce que, dernière question, est-ce que tu as un rêve pour Gasmi Eco s'il n'y avait pas de limite de budget, de temps, est-ce que tu as un rêve de fonctionnement ou de quelque chose qui, voilà. Où est-ce que tu verrais bien Gasmi Eco dans 10 ans?
Gasnieco, ben moi je le verrais bien continuer à travailler sur cette question en fait d'une architecture éco-responsable, vraiment avec des matériaux bio et géosourcés, de manière bien plus large, parce qu'en fait on se rend compte que finalement cette démarche elle est peu présente dans les agences d'architecture, parce que souvent on a des clients qui nous appellent d'assez loin pour nous demander de venir travailler pour eux, et en fait on se rend compte que finalement c'est pas encore assez démocratisé cette démarche, et si j'ai un rêve, ouais, ça serait que ça soit une démarche qui soit vraiment démocratisée pour que tout le monde puisse accéder à une architecture du coup éco-responsable, plus écologique, respectueuse de l'environnement. Enfin, je pense que c'est ce que la majorité des gens aspirent. Et puis que ça soit quelque chose qui soit vraiment démocratisé, quoi. Donc, je pense que le matériau terre, il a aussi ce côté universel, pouvoir potentiellement être accessible à tous un jour peut-être. Voilà, il a servi à héberger toute l'humanité. Donc, il y a vraiment quelque chose avec le matériau terre toujours. Voilà, donc dans 10 ans, j'en sais rien, on va voir. Et après, bah, toujours avoir ce côté pratique et puis recherche, parce que voilà, tout ce travail-là sur les matériaux, sur le travail collaboratif avec les artisans, avec les clients, ça reste quand même des questions de recherche derrière. Et continuer à alimenter tout ça pour pouvoir le réinjecter dans de la pédagogie aussi, quoi, toujours. Voilà.
Ok. Parce que la pédagogie, c'est quelque chose qui t'intéresse?
Ben moi tout m'intéresse donc. Oui, ben bien sûr l'enseignement ça m'intéresse. Moi je fais tout ça, c'est pas pour garder mes connaissances et mes savoirs et en disant voilà, ça c'est moi qui l'ai fait. C'est pas ça le but de l'architecture, au contraire, c'est de pouvoir dire qu'on a des connaissances, des savoirs qu'on n'a pas acquis tout seul déjà, parce qu'on les a acquis avec des entreprises ou avec des autres architectes ou avec des laboratoires de recherche ou avec des gens. C'est le travail collaboratif qui est vraiment important. C'est là où on crée le plus de savoirs, de connaissances. Et du coup, ben, la logique derrière, c'est de le retransmettre au travers de l'enseignement. Et ça, c'est vraiment important aujourd'hui de pouvoir partager les savoirs. Enfin, notre ère, si on n'est pas capable de ça, c'est un peu dommage, quoi. Et il y a tellement de choses à partager, quoi, sur toute cette dimension de l'architecture éco-responsable, écologique, que voilà, il y a de l'enseignement à faire là-dessus, à tous les domaines, quoi, à tous les niveaux.
Ok. Bon, super, je pense qu'on peut s'arrêter là.
Ça
Merci
marche.
beaucoup.
Ben, merci bien. Bonnes vacances à toi.
Bonnes vacances à toi aussi. Et voilà, c'était Hugo Gasnier pour l'agence Gasnier Echo. Je suis Chérine Gasnier, la créatrice de ce podcast. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter.
Je vous laisse, je retourne à mes vacances. J'espère vous retrouver très vite pour un prochain épisode. En attendant, prenez soin de vous.